France Musique. Musicopolis. Luigi Rossi, invité de la Cour de France. C'est dans le recueil des Gazettes Nouvelles Ordinaires et Extraordinaires, Relations et autres récits des choses avenues toute l'année 1647 par Théophraste Renaudot qu'on trouve mention de la représentation, naguère faite devant leur majesté dans le palais royal, de la tragicomédie d'Orphée en musique et vers italiens, avec les merveilleux changements de théâtre, les machines et autres inventions jusqu'à présent inconnues à la France. La France, écrit Théophraste Renaudot, semblait avoir élevé en nos jours la dignité du théâtre au dernier point, ayant fait honte à l'Antiquité par la force et la beauté de ses vers et par la force et la naïveté de ses auteurs. Mais il faut confesser qu'elle se laissait vaincre à la pompe et décoration des scènes étrangères. Il n'était pas raisonnable que cet État, qui ne le cède en rien aux autres, leur fût inférieur en ce regard. Il peut aujourd'hui se vanter à juste titre qu'il ne l'emporte pas moins au-dessus de toutes les autres nations aux exercices de la paix qu'en ceux de la guerre. La preuve s'en fit mardi dernier dans le Palais Royal par la représentation de la tragicomédie d'Orphée. Théophraste Renaudot, chroniqueur de 1647, remarque bien que la représentation de la tragicomédie d'Orfeo, musique de Luigi Rossi, donnée au Palais Royal le 2 mars, était une opération politique, une affaire d'État. Et en effet, tout un concours de circonstances a fait que cet ouvrage a été monté pour participer à la gloire du gouvernement. D'ailleurs, ce que nous entendons dans le prologue, après le chœur qui appelait aux armes, c'est « la victoire ». En personne, qui vient célébrer les troupes françaises invaincues, comme il se doit, et nous dit en passant un petit mot sur la reine. La grande Anne, c'est-à-dire Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, qui régit sceptres et flèches avec des mains si belles que le ciel même, avec zèle amoureux, les désire pour les mettre au rang des intelligences premières. En 1647, la France vient de connaître quelques années troubles. En décembre 42, le cardinal de Richelieu, Premier ministre, est mort, suivi dans la tombe 6 mois plus tard par Louis XIII, âgé de 41 ans seulement. Son fils aîné, qui devient à cette occasion Louis XIV, n'a alors que 4 ans et demi. C'est donc sa mère, Anne d'Autriche, qui va se charger de la régence avec l'aide du cardinal Mazarin. Ce Mazarin, né Giulio Mazzarini, et naturalisé français à 37 ans, assure depuis longtemps des fonctions de diplomate, à Rome, à Paris et ailleurs dans le concert des nations européennes. Successeur désigné de Richelieu, il est attaché, comme son prédécesseur, à la grandeur de l'État et sur tous les plans. Dès 1643, Mazarin a fait venir de Rome des musiciens et des chanteurs. Eurydice explique à son père et à l'augure qui va lire les présages dans le vol des oiseaux qu'elle n'en a pas besoin. Quand un cœur amoureux est heureux, demande-t-il plus au destin ? Même lorsque l'augure verra dans le ciel de funestes évocations, Eurydice n'y croira pas, sûre d'elle-même et de son Orphée. Justement, le voici Orphée, qui adresse à sa fiancée quelques mots d'amour. « Mais quoi ? Tandis qu'ils vont vers toi, ma vie, je sens que mes regards me rapportent au cœur une joie infinie. » Vous avez remarqué, Orphée a quasiment la même voix que sa bien-aimée, une voix de soprano. J'y reviendrai. Le jeune couple, formé par Eurydice et Orphée, est extrêmement amoureux et uni. D'ailleurs, voici qu'ils chantent en duo. Quelle douceur que la certitude de deux cœurs aimants et fidèles, chez qui la fidélité loge de pair avec l'amour. Ah non, non, il est impossible de trouver plus grande suavité. Je vous le disais, dès 1643, le cardinal Mazarin a fait venir des musiciens et des chanteurs d'Italie, son pays d'origine. Mazarin a toujours été très mélomane. Et lorsqu'il était à Rome, il faisait partie de l'entourage des familles Barberini et Colonna, grande famille protectrice des arts. La famille Barberini, notamment, dont l'un des frères, le cardinal Antonio Barberini, avait à son service depuis quelques années Luigi Rossi, compositeur, organiste et claveciniste très apprécié. Or, voici qu'à l'occasion de l'élection d'un nouveau pape, pro-espagnol, tous les jeux d'alliance et de protection se trouvaient chamboulés à Rome. Les Barberini, plutôt pro-français, n'étaient plus en odeur de sainteté et devaient s'exiler en France. Luigi Rossi, dans les bagages. Je vous présente Aristée, personnage très important de cette tragi-comédie titrée Orfeo. Certes, l'histoire connue d'Orphée et d'Eurydice reste essentielle, avec les péripéties usuelles. Mais elle est entourée de toute une série de personnages annexes qui nourrissent aussi bien le versant tragique que le versant comédie. Sur le plan du nombre et de la variété des personnages, on est ici plus proche de l'Orphée aux Enfers d'Offenbach que de l'Orphée de Gluck. Et donc Aristée, fils de Vénus et de Bacchus, il est malheureusement pour lui amoureux d'Eurydice. Nous qui connaissons les sentiments d'Eurydice savons bien que c'est sans espoir pour Aristée. Ce qui ne l'empêche pas d'être jaloux, oui. Donc c'est bien un personnage masculin, ce que vous n'aviez pas nécessairement réalisé en l'entendant chanter. Lui aussi a une voix de soprano. Ce malheureux Aristée souffre en tout cas mille tourments. Il chante « La jalousie est reine des douleurs ». Pour contrebalancer l'humeur douloureuse d'Aristée, l'abbé Bouti, auteur du livret, qui fait lui aussi partie de la maison Barberini, a introduit le satyre à la voix de basse, qui tourne en dérision les souffrances du jeune homme. Mais revenons au compositeur Luigi Rossi, très connu à Rome, où il est l'organiste de Saint-Louis des Français. Il a déjà donné un opéra, le Palais Enchanté, qui a bien réussi. Ses partitions, notamment ses cantates, circulent en Italie depuis longtemps. Et depuis que Mazarin a fait venir à Paris la célèbre chanteuse Leonora Baroni, ses œuvres sont connues également en France. Arrivé d'Italie en juin 1646, Rossi a passé l'été avec la cour à Fontainebleau, avant de revenir à Paris à l'automne pour composer son opéra. C'est là qu'il a appris la mort, à Rome, de son épouse, la harpiste Costanza de Ponte. Le funeste présage pendant leur mariage, un coup de vent qui éteint toutes les flammes des torches, n'empêche pas Eurydice et Orphée de se réjouir de leurs noces. Mais autour d'eux, des forces contraires veillent, notamment Vénus, mère d'Aristée et ennemie d'Apollon, le père d'Orphée. Elle veut favoriser Aristée, son fils, bien sûr, et elle fomente une machination. Elle-même se transforme en vieille, chantée illico par un ténor. C'est sous cette forme qu'elle prépare son plan avec son rejeton. Oh, Je notais tout à l'heure la prépondérance des voix aiguës dans l'Orfeo de Rossi, puisqu'outre Eurydice, les deux jeunes premiers, Orphée et Aristée, ont tous les deux des voix de soprano. La raison en est que dans l'opéra italien d'alors, les rôles de jeunes hommes, et en particulier de héros, sont chantés par des voix aiguës, summum du chic. Et la vraisemblance est sauvegardée puisque ces voix aiguës sont émises par des corps d'hommes, de jeunes chanteurs choisis parmi les meilleurs castrats du moment. Orphée et Aristée sont chantés par les deux castrats favoris du public, Pasqualini et Mélanie. Selon un témoin, en février 1647, quelque temps avant la première représentation, Mazarin a fait venir d'Italie 4 hommes et 8 castrats. Les voix graves, elles, sont dévolues à des personnages soit comiques, soit de pères, soit d'habitants des enfers. Quant aux personnages de femmes, dans Orfeo, ce sont toutes des battantes, que ce soit la vindicative Vénus, la burlesque nourrice ou la belliqueuse Junon. Mais la plus forte, la femme puissante, c'est Eurydice, pour qui la fidélité est la suprême gloire. La première de l'Orfeo de Rossi a lieu le 2 mars 1647. Puisqu'il s'agit d'une commande de Mazarin, l'opéra va cristalliser tous les ressentiments, toutes les haines et les rancœurs à l'œuvre chez ses opposants ou ses ennemis. Déjà, la musique et le théâtre suscitaient quelques scandales, depuis que les Italiens avaient été appelés par le ministre. Le curé de Saint-Germain avait fait signer une pétition à 7 docteurs de la Sorbonne, affirmant que la comédie ne pouvait être fréquentée sans péché par les chrétiens et que les princes devaient chasser les comédiens de leurs états. À quoi la reine avait riposté par un autre libelle, signé cette fois par 10 docteurs, qui assuraient du contraire. Heureusement, dans Orfeo, comme le souligne la Gazette de Renaudot, la vertu l'emporte toujours au-dessus du vice. Il faut bien reconnaître que malgré la situation politique, la plupart des assistants ne peuvent qu'admirer la musique. Avec Orfeo, c'est bien une tragicomédie qu'a composée Luigi Rossi, le divin Luigi, comme on l'appelle alors. et sa partition est en effet d'une variété incroyable. Des scènes burlesques s'enchaînent avec des passages d'une grande émotion, auxquels succèdent des airs de danse et les péripéties les plus dramatiques. Et voilà, ça y est, Eurydice a été mordue par le serpent, dans la dernière scène de l'acte 2. Reste tout l'acte 3 pour conclure l'affaire, avec les larmes d'Orphée, sa supplication auprès de Pluton, la mort d'Aristée devenue fou de douleur, un crépage de chignon entre Junon et Vénus, la jalousie de Proserpine, le regard malencontreusement jeté par Orphée sur Eurydice qui remeurt. Enfin, la bénévolence de Jupiter qui transforme les deux époux et la lyre du mari en constellation. Il semble bien que le succès de l'Orfeo de Luigi Rossi a été grand au printemps 1647. Tout a été prévu pour donner un spectacle magnifique, avec des changements à vue, des armées qui bataillent, des palais et des bocages, des personnages qui volent, des apparitions, des disparitions, des décors et une mise en scène à tomber par terre. Ce n'est qu'après les représentations que les opposants du cardinal Mazarin vont s'en prendre à lui pour tout l'argent qu'avait coûté la production. Les 30 000 écus dépensés selon un témoin de foi deviendront 500 000 dans certains libelles. En fin de compte, dans Orfeo, le principal, comme dit Renaudot, aura été de voir ce sujet animé par l'organe de ses acteurs et par leurs gestes qu'il exprimait si parfaitement qu'il se pouvait faire entendre à ceux qui n'avaient aucune connaissance de leur langue. Le chœur final d'Orfeo de Luigi Rossi, Les Arts florissants, sous la direction de William Christie. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Élise Kravets pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Emmanuel Armin pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.